Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en train de faire ces émissions sur les œuvres de miséricorde. Or, j'avais dit que nous dressons, l'Église dresse cette liste de 14 œuvres de miséricorde, 7 corporelles, 7 spirituelles, pour nous donner des indications concrètes de l'amour que le Seigneur demande vis-à-vis du prochain. Nous savons que toute la loi se résume en aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Or, ça peut rester un peu vague, aimer son prochain, comment le faire, de quelle façon, etc. Et donc l'Église, en nous donnant des œuvres de miséricorde, nous montre comment cet amour du prochain peut se traduire en des actions très concrètes. Donc on pourrait les appeler des œuvres d'amour. Un amour tout particulier, non pas un amour d'amitié forcément, non pas l'amour entre les époux évidemment, mais c'est un amour qui se donne, l'amour divin, l'amour qu'on appelle l'amour de charité. Un amour qui a don de soi, qui se penche vers l'autre et en l'occurrence qui se penche vers la misère de l'autre. Pour cela, miséricorde, c'est le cœur qui se penche vers la misère de l'autre. Nous avons déjà vu 6 œuvres de miséricorde corporelle et aujourd'hui nous allons regarder ensemble la dernière œuvre de miséricorde corporelle. J'avais dit que, bon, c'est le Christ plutôt qui le dit dans l'évangile de Matthieu, qu'à chaque fois qu'on accomplit une œuvre de miséricorde envers les plus petits de ses frères, c'est à lui-même que nous accomplissons. Mais j'avais dit aussi que le Seigneur Dieu est le premier qui accomplit toutes les œuvres de miséricorde, le premier, et que les accomplir, c'est redevenir semblable à Dieu, puisque nous avons tous été créés à son image et ressemblance. Quand nous accomplissons des œuvres de miséricorde, nous ressemblons de plus en plus à Dieu. Et le contraire est vrai aussi. Plus nous ressemblons à Dieu, par les sacrements, par l'écoute de sa parole, par la prière, plus nous sommes capables d'accomplir des œuvres divines, c'est-à-dire des œuvres de miséricorde. Donc ça marche ensemble. Ça nous fait ressembler à Dieu et plus nous ressemblons à Dieu, plus nous pouvons les accomplir. Or, concrètement, cette septième œuvre de miséricorde corporelle, c'est ensevelir les morts. La première chose qui pouvait nous étonner, c'est qu'elle ne fait pas partie de la liste du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez? Donc l'évangile de Matthieu nous disait, j'ai eu faim, Jésus disait, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade ou en prison, vous êtes venu me voir, j'étais nu, vous m'avez habillé, etc. Et donc il n'y a pas cette septième œuvre de miséricorde. Et pourtant, pour le peuple d'Israël, pour le peuple de la Bible, dans l'Ancien Testament, être privé de sépulture en Israël était perçu comme un mal horrible. C'était une malédiction, rester sans sépulture. Ça faisait même partie des châtiments dont on menaçait les impies, les ennemis du peuple. Si vous allez voir le livre des rois, les prophètes Isaïe ou Jérémie, ils vont menacer les ennemis en disant, vous allez rester sans sépulture. Tellement c'était grave, c'était fort. La sépulture était donc chez les Juifs un acte de piété et une pratique pieuse. Par exemple, dans le livre de Ben Sira le Sage, ce qu'on appelle aussi le livre du Siracide ou de l'Ecclésiastique, ça dépend des Bibles que nous possédons, on va trouver ces exhortations-là. Que ta générosité touche tous les vivants, même aux morts, ne refuse pas ta piété. Ou alors, au chapitre, ça c'est au chapitre 7, au chapitre 38 aussi, vers la fin du livre, mon fils, répands tes larmes pour un mort, pousse des lamentations pour montrer ton chagrin, puis enterre le corps selon les cérémoniales et ne manque pas d'honorer sa tombe. Donc déjà dans l'Ancien Testament, ces livres de sagesse nous montraient combien il était important d'ensevelir les corps des morts, d'avoir ce respect pour le corps. Et de pouvoir aussi de faire des funérailles, célébrer ces funérailles. Mais dans tout le corpus des livres de l'Ancien Testament, celui qui en parle le plus est sans aucun doute le livre de Tobie. Le livre de Tobie offre un témoignage vivant de cette pratique. Je vais vous lire deux extraits. Au tout début du livre, au chapitre 1er, où il est dit, au jour de Salmanazar, J'avais fait, c'est le père de Toby qui le dit, j'avais fait souvent l'aumône à mes frères de race, je donnais mon pain aux affamés et des habits à ceux qui étaient nus. Et j'enterrais, quand j'envoyais, les cadavres de mes compatriotes jetés par-dessus les remparts de Ninive. J'enterrais de même ceux que tu as, Sennachérib. » Alors, Toby, le père, le vieux Toby, est en train de nous dire qu'il accomplissait des œuvres de miséricorde. Et regardez comment déjà il mettait dans la même liste, au même plan, habiller ceux qui étaient nus, donner à manger à ceux qui étaient affamés, donner l'aumône à ses frères juifs, et ensuite enterrer, puisqu'ils étaient en exil, ils étaient à Ninive, en Assyrie. Et donc, il accomplissait cette œuvre de miséricorde qui était d'enterrer ses compatriotes qui avaient été tués par l'oppresseur, bien sûr. Et ensuite, au 12e chapitre, vers la fin du livre, parce que l'histoire raconte donc que Toby, le vieux Toby, tombe malade, il devient aveugle. Et d'un autre côté, il y a Sarah, qui appartenait à une autre famille, qui était dans une autre ville, qui ne peut pas se marier. Bon, je vous passe les détails, ce n'est pas le moment de revenir sur les détails de l'histoire. Et l'ange Raphaël, Raphaël qui veut dire Dieu guéri, l'archange Raphaël est envoyé pour sauver tous les deux, pour exaucer les prières du vieux Toby, pour qu'il soit guéri de sa cécité, et pour donner un époux à Sarah, qui n'était autre que le jeune Toby, le fils donc, le jeune Toby. Et à la fin du livre, quand l'archange Raphaël se révèle, puisqu'on ne sait pas, on pensait qu'il était juste un voyageur, quelqu'un qui avait offert ses services, qui avait prêté un service au jeune Toby dans son voyage. Et en fait, quand il se révèle comme étant l'ange qui est en présence de Dieu, il dit ceci au chapitre 12 du livre de Toby, que je recommande à tous. Ça peut être vraiment une bonne lecture, le livre de Toby qui est facile à lire, qui ne possède que 14 chapitres, qui est vraiment très beau et très édifiant. Alors, au chapitre 12, il a dit ceci. Saint Raphaël dit ceci. « Lorsque vous étiez en prière, toi, le vieux Toby, et Sarah, c'était moi, Raphaël, qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même, lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. » Très intéressant. Ça veut dire qu'au début du livre, on découvre que Toby était à table quand il apprend qu'il y a un mort, un compatriote qui gît dans le trottoir, qui est mort. Et donc, il se lève de table, il ne finit même pas son repas pour honorer le corps de son frère de race, mais peu importe, de son frère en humanité, tout court. Et donc, il va honorer ce corps, il va l'ensevelir, célébrer ses funérailles, etc. Donc, Toby ajoute, les premiers qui ajoutent ensevelir les morts comme une bonne œuvre, au même titre que donner à manger aux affamés, que donner à boire à ceux qui ont soif. Et donc, c'est probablement de ce livre-là de Toby que nous avons eu la liste complète des œuvres de miséricorde en ajoutant ensevelir les morts aux œuvres proposées par Saint Matthieu, par Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui va donner, bien sûr, au XIIIe siècle, une explication plus profonde de cet ajout. Pour lui, le silence sur la sépulture dans les six premières œuvres de miséricorde de l'évangile de Matthieu est dû au fait qu'elles sont d'une importance plus immédiate, ces six œuvres de miséricorde, et donc ne tombent pas dans le déshonneur de ceux qui restent sans sépulture. Car les cœurs miséricordieux doivent avoir de l'affection pour le défunt, même après la mort. C'est pourquoi ceux qui enterrent les morts sont louables, comme par exemple Toby, et les disciples de Jésus qui enterrent le Christ dans la tombe. Donc il faut toujours avoir à cœur cela. Quand on honore le corps d'une personne qui est décédée, que ce soit de notre famille, et bien sûr c'est le premier devoir des enfants que d'honorer ses parents jusqu'à l'ensevelissement, mais quand on honore quelqu'un qui est décédé, on honore le corps du Christ. On accomplit la même œuvre de miséricorde que Joseph d'Arimathie, que Nicodème, que les femmes qui voulaient aller au tombeau pour oindre le corps du Christ. En rendant hommage au corps de nos frères défunts, c'est au corps du Christ enseveli dans le tombeau que nous rendons hommage, puisque le Christ s'identifie à ses fidèles, s'identifie au plus petit de ses frères et en l'occurrence à toute personne humaine. Donc pour cela, mes frères, c'est très louable et c'est un devoir que nous avons. Je pense à beaucoup de familles chrétiennes aujourd'hui des familles chrétiennes, des familles qui étaient chrétiennes, dont les parents étaient pratiquants et qu'eux-mêmes peut-être se sont éloignés de la foi, et on ne va pas entrer ici dans le détail, mais qui parfois, au moment des funérailles de leurs parents, ne veulent plus passer par l'église et ne veulent pas respecter ceux qui, pour leurs parents, étaient importants. C'est-à-dire que si pour vos parents, pour vos proches, vous savez que pour eux, c'est très important de passer à l'église, d'avoir des funérailles chrétiennes, d'avoir une messe célébrée, n'hésitez pas à demander au ministre de l'église, aux paroisses, aux prêtres directement, peu importe, mais n'hésitez pas à demander des funérailles avec la messe, si besoin, parce que pour la personne, c'était important, puisqu'elle était croyante, elle était pratiquante, ça fait partie de sa foi. Ce n'est pas parce qu'elle est décédée que maintenant on peut mettre entre parenthèses sa foi. Pas du tout, au contraire, c'est le moment même de l'honorer. Et pour nous qui sommes des baptisés, il y a même un pas de plus à faire, c'est que notre corps est temple de l'Esprit Saint. Depuis le jour de notre baptême, déjà, toute personne humaine est à l'image et ressemblance de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'elle n'est pas baptisée qu'elle ne possède pas une dignité humaine. Au contraire, elle est à l'image et ressemblance de Dieu. Mais je disais que nous qui sommes baptisés, notre corps est temple de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que depuis les jours de notre baptême, Dieu habite à l'intérieur de nous. Imaginez-vous la dignité, nous sommes un temple, nous avons été achetés à un grand prix, dit saint Paul. Glorifiez Dieu par votre corps. Pour cela, l'Église honore le corps des chrétiens, parce qu'ils ont été temple de l'Esprit Saint. Si vous regardez la cérémonie des funérailles, la célébration des funérailles, vous allez voir que le prêtre donc asperge de l'eau bénite les corps des baptisés, qu'il l'encense. Or, l'encensement dans l'Église est réservé à ce qu'il y a de plus sacré, de plus saint. On n'encense que l'Eucharistie, l'autel, le ministre, le peuple. Et précisément pour cela, on encense aussi les corps des baptisés, pour montrer l'honneur, le respect qui lui est dû. Donc pour cela, ensevelir les morts est une œuvre de miséricorde. Hein, c'est important de se rappeler cela. Où Jésus lui-même avait dit, quand la femme avait cassé le vase de parfum pour pouvoir oindre ses pieds, il disait, c'est une bonne œuvre qu'elle accomplit puisqu'elle prépare ma sépulture. C'est intéressant. Jésus met en rapport l'œuvre de miséricorde par rapport aux pauvres, puisque quelqu'un à côté, Judas en l'occurrence, dit, Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum-là et donner tout l'argent aux pauvres, en sachant que Judas était voleur et qu'il ne voulait pas vraiment aider les pauvres. Mais Jésus répond en disant, des pauvres, vous en aurez toujours, mais cette femme prépare ma sépulture parce que vous ne mourrez pas toujours. Donc Jésus montre encore une fois la dignité de la sépulture chrétienne, qui nous rappelle aussi la résurrection, tout simplement. Nous les chrétiens, nous croyons en la résurrection de la chair. C'est très intéressant, c'est une œuvre de miséricorde, celle-là, qui nous permet d'approfondir notre foi en la résurrection. Vous savez, une fois, on a fait un sondage, il y a 15 ans de cela, plus ou moins, on a fait un sondage en France, à la sortie des paroisses, des messes et du dimanche, par rapport au point de la foi. Vous savez, l'Eucharistie, la Trinité, l'Incarnation et la résurrection. Or, 60% de personnes qui allaient à la messe le dimanche en France disaient qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Et là, il faut faire le point, la différence entre la résurrection et la vie éternelle. Vous voyez qu'il y a deux points distincts dans le credo. Nous disons, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Or, ce n'est pas la même chose. Autrement, il n'y aurait pas besoin de multiplier les choses pareilles. Donc, si on a mis deux points différents, c'est parce qu'il s'agit de deux réalités différentes. La vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui ne finit pas avec notre mort, le fait que nous possédions une âme et que cette âme est immortelle, même les philosophes grecs l'avaient compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a très peu de gens, je pense, qui croient qu'avec la mort, la vie s'arrête tout court. Il y a beaucoup qui croient à une survie ou à une continuation de la vie éternelle. Donc ça pose moins de problèmes. Tandis que la résurrection de la chair, c'est-à-dire du corps, ça pose beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde. Et cela depuis l'Antiquité. Saint Paul, quand il va à Athènes, on lit ça dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres, il se rend à Athènes Il commence à annoncer l'évangile et il parle de Dieu inconnu, il parle de Dieu des philosophes, il parle du fait que les Athéniens et les Grecs en général étaient très religieux, etc. Il dit, j'annonce ce Dieu inconnu, le seul Dieu qui existe, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, grâce auquel nous vivons, nous existons, voilà, etc. Et donc Saint Paul annonce tout ça et il y a beaucoup de gens qui sont attentifs à son discours, à son annonce de l'évangile. Mais quand il parle de la résurrection des morts, or les gens commencent à se moquer de lui. Ils s'en vont en disant, on t'écoutera sur ce point la semaine prochaine. Et ils s'en vont. Parce que ils butaient sur ce point-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand je dis que 60% des personnes à la fin de la messe disaient ne pas croire à la résurrection, c'est parce que c'est très difficile croire au fait que notre corps ressuscitera, glorieux évidemment, glorieux, de façon mystérieuse, on ne sait pas comment. Les apparitions du ressuscité dans la Bible nous montrent un petit peu. Ce corps ne sera plus contraint par les lois de la matière, on n'a plus besoin d'avoir de la distance vis-à-vis des uns des autres, plus besoin des temporalités, on sera dans l'éternité. D'accord, on n'aura plus besoin de manger, évidemment, ni de dormir, c'est-à-dire on sera plus contraint par les lois de la biologie, de la physique ou de la chimie. D'accord, mais c'est notre corps qui sera glorieux. Comme aujourd'hui dans le ciel, nous avons le corps de Marie et le corps du Christ qui sont glorieux pour toujours. Or, ensevelir les morts, c'est affermir et affirmer notre foi en la résurrection de la chair. C'est pouvoir professer cette foi et la confirmer en nous en enterrant les morts. Pour cela, l'Église appelle l'endroit où on enterre les morts un cimetière. Cimetière en grec veut dire dortoir, l'endroit où les personnes dorment. Et si vous regardez l'Ancien Testament, depuis les martyrs de Saint-Étienne dans les Actes des Apôtres jusqu'aux lettres de Saint Paul, quand il parle de ceux qui sont morts après la résurrection de Jésus, il parle de ceux qui se sont endormis. Saint Paul dit ceux qui se sont endormis dans le Christ. Quand Étienne meurt, il est martyrisé, on dit, il a dit, Père Jésus, je remets dans tes mains ton esprit, ne leur prends pas en compte ses péchés. Et ensuite, il s'est endormi. Voilà, il s'est endormi. Ou quand on prie à la messe, on prie pour tous ceux qui se sont endormis dans le Christ. Le prêtre prie à la messe. Donc pour nous, le cimetière où on enterre les morts, c'est un dortoir où les gens attendent le dernier jour, le jour de la résurrection, où l'ange sonnera la trompette et tous les morts vont pouvoir ressusciter incorruptibles et nous serons transformés et la création elle-même sera tout entière renouvelée. Voilà notre espérance, voilà le cri de la Pâque, le cri de la résurrection, la bonne nouvelle pour le monde entier.
Père, deux questions ou deux précisions. Tout d'abord, quand vous parlez de cette dormition, on est endormi jusqu'à la résurrection, mais c'est notre corps qui reste, mais notre esprit déjà est vivant dans le ciel, enfin en Christ en tout cas. Enfin, question donc, hein, première. Et puis la deuxième, c'est à propos de l'incinération. De plus en plus de nos jours, on voit même des gens, juste vous parliez donc du respect du corps, de la manière de l'ensevelir, mais de plus en plus, même de nombreux chrétiens utilisent l'incinération. Alors, comment l'Église se positionne-t-elle vraiment par rapport à ce phénomène aujourd'hui, en fait, cette possibilité aujourd'hui d'être incinéré?
Merci de demander ces précisions. Il est vrai que il faut préciser que quand je parle de dormition ou de corps qui sont endormis, c'est vraiment notre corps, c'est-à-dire la partie charnelle, la chair, résurrection de la chair. Tandis que dans tout homme, nous avons une partie spirituelle que l'Église appelle l'âme, et cette partie spirituelle survit tout de suite à notre décès, donc elle part tout de suite avec le Seigneur. C'est elle qui sera jugée, c'est elle qui recevra la sentence quelque part, c'est-à-dire qui rentrera dans le ciel ou qui aura besoin d'être purifiée encore un peu, etc. Donc notre âme, tout de suite, elle part pour être avec le Christ. Tandis que notre corps, donc, est endormi dans le cimetière, pour les meilleurs de cas, mais attend de toute façon la résurrection finale. Et la même chose pour les saints. Il faut penser que dans le ciel, il n'y a que Jésus et la Vierge Marie pour lesquels l'Église est certaine qu'ils sont en corps et en âme. Tous les autres saints attendent aussi la résurrection finale où le corps du Christ sera enfin complet, la tête et les membres, nous disent les pères de l'Église avec cette belle expression en disant que à la fin du monde, il y aura lieu le grand dimanche. Le grand dimanche de Pâques où tous les membres du corps du Christ ressusciteront en corps et en âme pour être toujours avec lui. Et pour la deuxième question, la question de l'incinération, il est vrai que pendant des siècles, l'Église l'avait interdite, justement à cause de cette importance, de cette mise en valeur du corps que l'ensevelissement, que la sépulture permet. Mais depuis déjà 1963, donc depuis déjà plus de 60 ans, une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a été insérée ensuite dans le Code de droit canon, précise que l'Église catholique, bien qu'elle maintienne sa préférence pour l'inhumation traditionnelle, accepte d'accompagner religieusement ceux qui ont choisi l'incinération. Donc c'est vrai qu'elle continue de prôner, de favoriser l'inhumation, c'est-à-dire la sépulture classique, puisqu'elle met en valeur la foi en la résurrection de la chair, mais elle n'interdit plus l'incinération, je précise, à condition que les motifs ne soient pas expressément antichrétiens. C'est-à-dire que parfois on peut demander l'incinération tout simplement parce qu'on ne croit plus rien, parce qu'on pense qu'après la mort, il n'y a plus rien, donc autant me brûler et jeter mes cendres dans la nature, ou alors parce que je vais me faire une seule chose avec la terre, avec la nature, avec la mer, etc. Donc là, non, là, ce n'est plus chrétien. Mais parfois, il y a des pays où c'est presque obligatoire, je pense en Orient, la Chine par exemple, où il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de gens, etc. Donc il y a des endroits qui, par des motifs économiques ou écologiques ou autres, doivent recourir à l'incinération. Donc l'Église n'interdit plus. Donc il faut être clair. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'interdit plus qu'elle le recommande. Non, elle recommande toujours la sépulture chrétienne. Et même, je vais encore plus loin, même quand on est incinéré, quand on subit la crémation, l'Église nous invite à enterrer les cendres, non pas à les jeter n'importe où, non pas à les garder à la maison, mais à les enterrer dans une sépulture digne, même si petite, pour quand même garder ce signe de l'enterrement, de la mise en terre, même si ce ne sont que des cendres. Alors mes frères, je vous invite vraiment à réfléchir sur l'importance de notre corps, sur l'importance de la résurrection pour notre foi, elle est capitale. Si les morts ne ressuscitent pas, dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Non, le Christ est bien ressuscité et nous aussi, nous ressusciterons avec lui. C'est la bonne nouvelle que l'Église ne cesse d'annoncer depuis plus de 2000 ans. Une bonne journée à tous dans la joie de la résurrection. Unica vita sensibile.